Mais Père éternel, nous voulons te remercier pour ce temps en Église ce matin, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour les frères et sœurs qui sont en train d'arriver. Merci, Père, pour ce temps où on peut venir s'abreuver à ta parole, Seigneur, et apprendre à apprécier cette révélation merveilleuse que tu nous as donnée. Seigneur, transforme-nous. Transforme-nous par ta parole. Transforme nos pensées. Remplis nos cœurs d'espoir, de joie, de foi, Seigneur. Je te prie de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, deux petites choses à mentionner en commençant. D'abord, on est dans le cours Survol de la Bible. Et puis, on va terminer ce matin la leçon sur les psaumes, avec les psaumes messianiques. Et puis, on va couvrir ensemble la leçon sur les proverbes. Deuxième chose que je devais vous mentionner, on va attendre quelques minutes que tous nos joueurs soient arrivés. Puis, ce matin, j'ai une petite évaluation à vous faire remplir. C'est simplement une page à remplir. Alors, tout à l'heure, je demanderai à quelqu'un simplement de le distribuer. Et à la fin du cours, si vous pouvez le remplir et venir le déposer ici sur la tablette, ça va nous être utile pour chercher à s'améliorer. Merci. Alors, brièvement, les psaumes messianiques. Quelqu'un peut nous dire, juste pour nous remettre dans le bain, qu'est-ce qu'un psaume messianique? C'est un psaume, oui, OK. C'est quoi un psaume messianique? Qui parle du Messie, OK. C'est des psaumes prophétiques, d'accord? Ce sont des psaumes prophétiques. Oui, il parle du Messie, mais c'est avant que le Messie soit venu. Fait que c'est pas simplement de la louange après la venue de Jésus. C'est quelque chose qui parle du futur. On va aller en regarder quelques-uns. Est-ce que vous en connaissez par cœur certains psaumes messianiques? Et puis, de quoi il parle? Je sais, du Messie, merci. Mais en quoi il nous parle du Messie? Le psaume 2. OK, allons voir le psaume 2 parce qu'il est pas mal intéressant. Allons voir ensemble le psaume 2, s'il vous plaît. Psaume 2, alors Flore, est-ce que tu veux nous dire en quoi est-ce qu'il est messianique? Oui, ça va. Oui. OK, excellent. Excellent, merci. Alors là, ça nous parle du Messie roi, ça nous parle du Messie régnant. Jésus apparaîtra pas comme ça, n'est-ce pas? Dans sa première venue, il va apparaître, oui, il va régner, mais il va régner par sa mort, puis par sa résurrection. Un autre psaume messianique. Psaume 22, évidemment, hein? Psaume 22, allons le voir rapidement. Là, c'est particulier parce qu'il y a carrément des paroles du Christ sur la croix qu'on trouve là, dans ce psaume-là. Donc, c'est un psaume qui est vraiment touchant. Verset 2, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. » Verset 7, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Alors vraiment, là, tout le récit autour de la croix, c'est vraiment un psaume extraordinaire. Un autre psaume messianique. On peut peut-être aller voir 69 pour terminer. Alors, les psaumes messianiques vont l'être de deux manières. Soit parce qu'elles annoncent quelque chose qui va venir avec Christ, d'accord? Ou soit parce que, en fait, je pourrais dire de trois manières. Soit parce que Christ lui-même va citer ce passage-là et va s'approprier ces paroles-là, ce qui est le cas ici dans le psaume 69 au verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Soit ceux qui racontent le récit, justement, vont citer les psaumes pour expliquer que c'est ça qui est en train de se passer, d'accord? Alors, on va appeler un psaume messianique, les psaumes qui nous parlent d'événements à venir, des psaumes qui sont cités par Christ, des psaumes qui nous annoncent justement les événements à venir autour de la croix, mais des psaumes aussi qui vont expliquer des choses. Le narrateur biblique dans le Nouveau Testament va citer ce psaume-là pour expliquer ce qui est en train de se passer, et donc dans ce sens-là, le psaume lui-même était prophétique. La semaine dernière, il nous restait juste à couvrir aussi la dernière partie pour comprendre les psaumes. Trois clés qu'on donne dans la leçon. Identifier le type de psaume en considérant le contexte. Alors, pour certains des psaumes, on a le contexte historique dans lequel le psaume a été donné, d'accord? Dans certains psaumes, on sait qui l'a écrit, dans quel contexte, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ceci doit nous aider à comprendre les psaumes. La semaine dernière, on a parlé entre autres des psaumes imprécatoires. Bien, il faut que j'aie une bonne théologie biblique pour bien comprendre les psaumes imprécatoires. Quelqu'un me disait, il y a quelques semaines, il me disait, est-ce que tu trouves pas ça dangereux, admettons, d'enseigner à partir d'un psaume comme celui-là? Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne théologie biblique, quand je parle d'une théologie biblique, je parle d'une compréhension générale des Écritures pour pouvoir replacer un texte dans son contexte, non seulement immédiat, mais dans l'ensemble de la révélation aussi. Alors la personne me dit, est-ce que tu trouves pas ça dangereux? Par exemple, ce qu'il appréhendait ou ce qu'il craignait, c'est que ça amène des gens à cultiver de la haine, un désir de vengeance, par exemple. D'accord? Et c'est vrai qu'il faut aller voir le contexte des psaumes pour pouvoir bien les comprendre. Pour plusieurs des psaumes, on a des informations qui nous aident à situer ce psaume-là. Être sensible au langage figuré ou poétique. Alors, ne pas essayer d'aller au-delà de l'image. C'est une clé importante avec la poésie. Vous avez peut-être déjà entendu certains, chez les pères de l'Église, certains des pères de l'Église avaient différentes approches au niveau de l'interprétation et puis ils avaient comme différents niveaux d'interprétation. Et lorsque je parle des pères de l'Église, je parle des leaders principaux de l'Église primitive, ça veut dire des années 100, 100 quelques jusqu'à 350 environ. Et des fois, c'est troublant un petit peu parce qu'ils avaient plusieurs niveaux d'interprétation des Écritures, plusieurs d'entre eux, et donc ils avaient une interprétation littérale du texte, ce qui est beaucoup plus près de ce que nous on fait, d'accord? Et puis, par exemple, ils pouvaient avoir une interprétation spirituelle du texte, et puis ils avaient une interprétation allégorique du texte. Lorsqu'ils s'en vont dans l'allégorie, mais avec un psaume, quand tu commences à donner un sens à chaque détail d'un texte poétique, bien, c'est tendancieux. Tu peux en venir à dire à peu près n'importe quoi. Ou tu peux voir à l'intérieur de ça, au-delà de ce que l'auteur voulait dire. On est dans les livres de sagesse, et la poésie, dans les livres de sagesse, sert à nous communiquer des principes, nous communiquer un état d'âme. Et aller au-delà de l'image, essayer d'interpréter tous les détails d'une métaphore, d'une image en poésie, je peux atterrir à peu près n'importe où. Alors, l'Église a appris à travers les siècles à ne pas se laisser aller dans de l'allégorie, mais plutôt respecter le style littéraire, le genre littéraire dans lequel je suis. Puis même aller voir, par exemple, si on parle des... la semaine dernière, j'ai mentionné l'Apocalypse. L'Apocalypse est un genre en lui-même, le genre apocalyptique. Une fois que je sais ça, je peux aller étudier d'autres écrits apocalyptiques, pas bibliques, d'accord, mais apocalyptiques de l'époque, pour comprendre comment les images étaient utilisées. Et c'est vraiment important pour pouvoir comprendre l'Apocalypse. Alors, ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui, on va identifier un genre littéraire, puis on va aller voir à l'époque où le genre était utilisé. D'accord? Parce que des écrits apocalyptiques, ça ne pleut pas de nos jours. À l'époque où il y en avait plusieurs, comment les auteurs et comment les gens interprétaient ce texte-là, à cette époque-là, dans leur culture à eux. Une fois que j'ai passé par ces filtres-là, si je peux dire, je suis capable de revenir vraiment à l'essentiel du texte puis pas m'égarer dans des images en voyant des choses qui ne seraient pas là nécessairement dans l'intention de l'auteur. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que ça, pour dire un anglicisme, est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de dire? Ou je parle chinois là, pour un 9h du matin, dimanche matin? Pardon? Oui, c'est un calque. Est-ce que ça va? Vous me suivez? OK. C'est ça. Je pense que ça couvre à peu près tout. Alors, on va passer ensemble à la leçon sur les proverbes. On a pas mal de matière à voir ce matin. Vous avez pris les feuilles de notes sur la table à l'arrière. Je pense que j'ai tous mes joueurs pour ce matin. Je vais juste rementionner, et peut-être si quelqu'un pouvait distribuer ça pour moi, ça me rendrait service. Ce matin, à la fin du cours, moi je termine vers moins 5, là. Merci. Je vais vous demander de remplir un formulaire d'évaluation. On veut juste s'améliorer, alors j'ai besoin de votre rétroaction. J'ai besoin de vos commentaires, vos observations sur le cours, des choses que je peux améliorer, tout ça. Alors, je vous demande simplement de le remplir à la fin du cours, de venir le déposer sur ma tablette ici. D'accord? Moi, je vais être à l'arrière. Le livre des Proverbes. Est-ce qu'il y en a ici qui ont cette belle habitude que plein de chrétiens ont de lire régulièrement les Proverbes? 31 chapitres, tout ça, oui. C'est un livre que j'ai lu pendant des années. Je vous dirais, les 10 premières années de ma vie chrétienne, là, c'était quelque chose que je lisais pratiquement tous les jours. Je lisais mon proverbe. Et c'était vraiment une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène mentale pour moi de pouvoir réformer ma pensée et découvrir la sagesse de Dieu. On est dans l'ensemble des livres poétiques ou des livres de sagesse. Quand vous pensez aux psaumes, aux proverbes, à Job, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, essayez toujours de penser dans ces deux termes-là. Ce sont des livres poétiques par leur forme, par leur genre littéraire, mais c'est pas de la poésie telle qu'on l'entend aujourd'hui, une poésie qui sert essentiellement à communiquer des états d'âme. Ce sont des livres de sagesse, d'accord? Et donc, ils sont pas là simplement pour nous communiquer comment un auteur filait un lundi matin après une grosse fin de semaine en retournant au travail. Ils sont là pour nous instruire dans la pensée de Dieu, nous instruire dans la pensée divine. D'accord? Alors, on va dire d'eux que ce sont des livres poétiques, mais des livres de sagesse aussi. Quelqu'un qui voudrait nous résumer, c'est quoi un proverbe? Pas nécessairement le livre des proverbes, mais qu'est-ce qu'un proverbe? Oui. Une sentence, comme je m'en vais aux peines pour 10 ans. Sentence. Oui. Vous savez c'est quoi le mot sentence? C'est une courte phrase dogmatique, d'accord? Et donc c'est une idée, une opinion, une déclaration. Qu'est-ce qu'un proverbe? Une sentence, dans un langage plus contemporain, ce serait quoi? Quelques proverbes québécois qu'on connaît, contemporains? Est-ce que vous en avez? Oui, c'est ça. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il est vieux un petit peu, Est-ce qu'on en a d'autres? Pardon? Celui qui crache en l'air. Oui, c'est ça. Quand tu craches en l'air, ça va te retomber sur le nez. Ça, c'est québécois, ça. Mais, hein? C'est un proverbe. C'est un proverbe. Ça passe la leçon. Ça passe la leçon. Alors, un proverbe, c'est ça. C'est une courte sentence. C'est une courte déclaration qui cherche à communiquer une vérité qui va généralement avoir une orientation pratique. Ça va parler du quotidien, ça va parler de ton attitude au quotidien. C'est pour ça qu'on aime les proverbes. Ils sont pas dans des grandes déclarations théologiques. Ça parle du cœur, ça parle de réaction, ça parle d'attitude, ça parle de comportement, ça parle de décision. Ça parle de sagesse, mais d'une sagesse pratique. La sagesse pour les Hébreux, c'est de savoir bien faire, de savoir bien dire les choses. Pour les Hébreux, un sage, c'est pas quelqu'un qui peut expliquer la vie, mais chez qui, dans sa vie, il y a comme une contradiction profonde. D'accord? Nous, on va regarder des gens aujourd'hui dans la société occidentale, on va respecter des grands penseurs, on va lire des choses qu'ils écrivent, tout ça. Puis parfois, même assez souvent, quand tu découvres leur vie, c'est à peu près n'importe quoi. D'accord? Et donc, tu trouves des vies qui sont assez brisées, qui des fois sont très centrées sur une vie intellectuelle, puis en réalité, leur vie sociale, c'est vraiment tout croche. Ce n'est pas la sagesse dans le sens biblique du terme. La sagesse dans le sens biblique du terme, c'est une pensée qui m'amène à voir, c'est une manière de penser qui m'amène à voir des comportements, des paroles, des attitudes, faire des choix qui vont être saints, S-A-I-N-T, qui vont être saints, S-A-I-N, qui vont me conduire dans la voie de Dieu. Et c'est ça la sagesse. Alors le sage est quelqu'un qui fait le bien. Mais ça va un petit peu dans le sens des fables de La Fontaine, il y avait cette idée très pratique, d'accord? Le sage, c'est quelqu'un qui fait le bien. C'est pas quelqu'un qui sait bien parler. L'un ne nuit pas nécessairement à l'autre, mais ce n'est pas premièrement quelqu'un qui sait bien parler, le sage. C'est quelqu'un qui fait le bien devant les choix qu'il a à faire. Dans la pensée biblique, il y a tout le moins de la sagesse. Si vous regardez dans le deuxième paragraphe de vos notes, les proverbes nous montrent l'application de la loi de Dieu au cœur de l'individu. Les proverbes sont des énoncés de sagesse pointant vers une vérité simple à appliquer dans les différentes circonstances de la vie. Alors, on a dans le Pentateuque, on a la loi de Dieu qui nous dit « voici ce qui est bien, ce qui est mal ». Dans les proverbes, ça va être davantage dans le « day-to-day », dans le quotidien. Pour que ces principes-là de la loi de Dieu soient portés dans notre cœur, puis nous donnent un discernement général. Les proverbes sont applicables dans plein de circonstances. Ils n'ont pas une application spécifique. Je m'en nourris pour réformer ma pensée, puis après ça, je m'en vais dans la vie et je connais mon chemin. C'est un des principes, d'ailleurs, du livre des Proverbes. Le sage connaît sa voie. Sa voie est droite, elle est toute tracée. Pourquoi? Parce qu'à force de m'imprégner de la sagesse de Dieu, j'ai ce discernement-là. Un des personnages caractéristiques des Proverbes, c'est l'insensé. L'insensé est à la fois coupable de ses folies puis victime de ses folies, de sa stupidité. Et vous connaissez des gens, peut-être que vous en êtes, je ne pointe pas personne du doigt, mais vous connaissez des gens, vous dites, mais comment il fait pour multiplier les mauvaises décisions comme ça? Puis des fois, là, c'est bon, des fois, il y a des gens qui vont être franchement rebelles, tout ça, mais je veux dire, même chez les chrétiens, vous allez en rencontrer des gens, vous dites, mais ça se peut-tu se mettre les pieds dans les plats tout le temps comme ça? Il n'y a pas de gros bon sens. C'est l'insensé dans les Écritures, dans les livres des Proverbes, avec ceci de plus, que c'est le fruit de sa rébellion aussi. D'accord? L'insensé dans les Proverbes, c'est quelqu'un qui est rebelle à Dieu et qui manque d'un gros bon sens divin, qui passe son temps à faire des inepties, à dire des inepties, à se mettre les pieds dans les plats, à faire des gaffes, à pécher, parce qu'il n'a pas cette crainte-là de Dieu pour chercher constamment la sagesse de Dieu. D'accord? Alors, par opposition, le sage dans les Écritures, c'est celui qui a ce principe-là dans sa vie, qui s'est nourri de la sagesse de Dieu. Après, il arrive au travail, il arrive à l'école, il arrive dans les relations, et sans nécessairement que ce soit parfait, là, et qu'il fasse toujours les bons choix, il sait, il discerne ce que Dieu attend de lui. Et il voit en ceci ce qui va lui être le plus profitable aussi. Le sage sait que ce qui est bon à faire, et que ce qui est bon à faire, c'est le mieux pour lui aussi. C'est le sage. Et lorsque nous savons ce qui est bon à faire, mais dans notre cœur, nous désirons faire le mal, en réalité, nous sommes encore dans le camp de l'insensé, dans ce domaine-là, par exemple. D'accord? On n'est jamais tout un ou tout l'autre. On est tous en processus pour apprendre la sagesse de Dieu. Le thème du livre des Proverbes. Alors, le point 1. La véritable sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Elle est nécessaire afin de vivre une vie intègre et en accord avec la volonté de Dieu. Adressons tout de suite un tout petit sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de l'Éternel? Les Proverbes commencent en nous disant que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Adressons tout de suite cette petite question. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de l'Éternel?
La crainte de l'Éternel, il y a deux manières de le celui qui a vraiment peur de Dieu. Et la crainte, c'est celui qui respecte Dieu par la peur de l'offenser.
OK.
Le respect qui l'amène à dire, « Wow, je vais faire ce que Dieu me demande et ça va porter fruit. »
OK, c'est bon. D'autres personnes? Oui, David? OK, OK. D'autres personnes? C'est quoi la crainte de l'Éternel? Oui, la crainte qu'on doit à un père.
Sachant qu'il t'aime, mais qu'il y a le pouvoir de corriger.
La crainte que tu dois à un père aimant, mais sage. Oui. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la manifestation de notre amour pour Dieu. Oui, c'est vrai. Pour un occidental, c'est difficile à accepter cette idée-là. Parce qu'on se dit, non, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de crainte. Même les Écritures ne disent-elles pas ça. Mais c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Mais pour un occidental, on a tendance à dire, non, ça ne marche pas comme ça. Si je considère que tout le monde est mon égal, Dieu aussi. D'accord? Ça, c'est l'occidental. Et donc, c'est difficile de saisir cela. Mais la crainte de l'Éternel, c'est ça, un peu comme Stéphane l'a dit, c'est une bonne image. C'est le sentiment qu'on devrait avoir, l'attitude qu'on devrait avoir envers un père, que nous savons aimant, mais que nous savons qu'il a l'autorité d'un père et qu'il va l'exercer dans toute sa sagesse. D'accord? Alors, la crainte de l'Éternel, c'est cette attitude, cette posture qui vient de bien mesurer les choses. Oui, je suis en train de parler à Dieu. Alors, si je remets toutes choses dans leur juste contexte, je suis quand même en train de parler à l'auteur de ma vie qui tient mon souffle dans ses mains. D'accord? Et il a qu'à décider que ça s'arrête là et tout s'arrête là. Et donc, c'est de lui que je parle. C'est bien illustré, et là, si on cherche l'équilibre ou une bonne compréhension, je devrais dire, de la crainte d'Éternel, c'est bien illustré dans les psaumes. Notre pensée occidentale a tendance à dire, bien un petit peu comme Gérard disait tout à l'heure, craindre c'est avoir peur de celui qui va me faire du mal. D'accord? C'est avoir peur de celui qui est méchant puis qui pourrait me faire du mal. On a peur de lui et on veut se libérer de ces peurs-là. Ça, c'est notre réflexe, évidemment. D'accord? Dans les psaumes, je trouve cette intimité avec Dieu qui fait que le psalmiste va déverser son cœur. Il n'a pas peur de dire tout ce qui se passe dans son cœur. En fait, si j'ai une bonne compréhension de Dieu, c'est insensé de penser que Dieu ne connaît pas tout ce qui se passe dans mon cœur. Alors, je m'approche de ce Dieu-là qui me voit comme une feuille transparente, qui voit à travers moi, qui lit dans moi comme un livre ouvert. Et donc, qui connaît tout ce qui se passe dans mon cœur. Il y a cette confiance-là, cette intimité. Et on trouve à l'intérieur des psaumes, même dans les moments extrêmement difficiles où le psalmiste va dire des choses qui, à nos oreilles, à nous, on se dit, « Mais mes amis, est-ce qu'il craint Dieu? » Lorsqu'il va dire, « Pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Pourquoi est-ce que tu as brisé mes os? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Éternel? » Il va s'approcher de Dieu en sachant qui est Dieu, et il y a quand même ce respect à la fin dans les psaumes où le psalmiste se tourne vers Dieu et dit, « Mais c'est toi, Dieu, et c'est toi que je veux honorer, et c'est toi que je veux servir. » D'accord? Et on gagne énormément à grandir en cela. Le Jésus qu'on adore, c'est notre frère, c'est notre sauveur, c'est celui devant qui nous allons nous prosterner pour l'éternité. Alors, il est à la fois mon frère et mon Seigneur. Et quand je perds un des deux de vue, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi de l'intimité que Dieu va avoir avec moi et de ce qu'il représente pour moi. Il est à la fois mon frère et mon Seigneur. Est-ce que ça va pour la crainte de l'Éternel? Oui? Ceux qui sont mal à l'aise avec ça, je vous encourage fortement à prendre le temps de lire, de méditer sur ça. Si vous êtes mal à l'aise avec la crainte de l'Éternel, si c'est un concept qui vous le saisissez pas bien, puis vous dites, si c'est ça, moi je suis mal à l'aise avec ça, c'est certain que ça se manifeste dans votre marche chrétienne. C'est sûr, sûr, sûr. Parce que c'est un des éléments importants de la piété. La piété, c'est le fruit de la crainte de l'Éternel, de l'amour, de la conscience que ce Dieu-là est Dieu et qu'il règne. date de rédaction pour le livre des Proverbes. Bien, le livre des Proverbes, un peu comme le livre des Psaumes, c'est vraiment un recueil. Et donc, c'est très, très clair qu'il y a eu un travail d'édition. Il y a un éditeur qui a rassemblé tout ça. Et donc, on pense que ça aurait été complété aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. On a certains indices avec des noms qui sont mentionnés, des rois qui sont mentionnés, tout ça, d'accord? Et puis, évidemment, la majorité des psaumes, des proverbes nous viennent de Salomon. Alors, déjà là, on peut situer plusieurs des proverbes. Concernant les auteurs, mais comme on l'a dit, on n'a aucune idée de l'éditeur. Qui est la personne qui a pris toutes ces sentences-là, ces proverbes-là, les a mis ensemble? Mais on connaît certains des auteurs. Salomon est l'auteur principal des proverbes. On dit dans 1 Roi 4:32 qu'il a prononcé 3000 sentences, 3000 proverbes, et a composé 1005 cantiques. Donc, il y a beaucoup de des proverbes qui sont des proverbes de Salomon. On a d'autres auteurs qui nous sont mentionnés, Agur, le roi Lemuel. Et puis, il y en a pour qui c'est simplement mentionné « Parole des sages ». Alors, on ne sait pas c'est qui, mais ce sont des sages en Israël. Si on veut donner une structure au livre, c'est un livre qui est difficile à suivre dans sa structure parce que ce sont toutes des petites sentences. Il n'y a pas de fil narratif. J'ai pas une histoire qui est en train de se développer devant moi. Si je veux lui donner une structure pour le saisir, bien, j'ai une introduction au chapitre 1, les versets 1 à 7, qui va nous parler de la sagesse et de l'appel de la sagesse. C'est l'exhortation du Père qui dit « Prends la sagesse, mon fils. Prends-la pour toi. Elle est vraiment bonne pour toi. » Ensuite de ça, la deuxième partie, discours sur la sagesse, qui va faire l'éloge de la sagesse. À quel point elle est importante, pourquoi est-ce qu'elle est bienfaitrice, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette sagesse-là. Troisième partie, les sentences de Salomon. Alors, les chapitres 10 à 22, qui sont des proverbes de Salomon. Et là, ça va être plus décousu. D'accord? Comme je le mentionnais la semaine dernière, en parlant justement de l'approche du parallélisme, tout ça, ben dans les proverbes, vous lisez un proverbe complet, mettons le proverbe 10, 11, 12, puis des fois, vous allez avoir deux versets qui ont un fil conducteur, mais c'est tout. Et souvent, même, ça va être un seul. Des fois, ça va être trois. Et donc, c'est très, très court. C'est pour ça qu'on dit, c'est évident, il y a un travail d'édition où ces sentences-là ont été ramenées ensemble. Proverbe des sages, quatrième partie. Autre proverbe de Salomon recueilli par les gens d'Ézéchias. 6, les paroles d'Agur. 7, les paroles de Lemuel. Et puis, le portrait de la femme vertueuse au proverbe 31. On va regarder ensemble quelques principes importants pour bien interpréter les proverbes, d'accord? J'espère que ce matin, ça va être pratique dans ce sens-là pour vous. Quelle est l'erreur qui a été faite souvent avec les proverbes? Une erreur très, très commune. Ça vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que certains font avec les proverbes ou qu'on va avoir le réflexe de faire avec les proverbes qui est une erreur importante? Tu penses-tu? Oui, le prendre comme un absolu, prendre ça comme des promesses. D'accord? Alors ça, c'est une erreur très, très commune qu'on fait avec le livre des proverbes. On va prendre les proverbes, les sentences, comme s'il s'agissait de promesses. Et instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Promesse de Dieu. Est-ce que c'est une promesse de Dieu? Est-ce que je suis dans un genre littéraire où j'ai des promesses de Dieu qui me sont présentées? On va voir ça ensemble rapidement. Si vous allez au point A, que sont les proverbes? Dans l'ensemble des Écritures, nous retrouvons plusieurs vérités absolues sur la personne de Dieu, sur l'homme, sur le monde qui nous entoure. Par exemple, Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour notre salut. C'est une déclaration, c'est un absolu, ça s'est fait. C'est un événement qui s'est produit. Les motifs pour lesquels ça s'est produit sont clairs, sont indiscutables. C'est par amour pour le monde que Dieu l'a fait. C'est un absolu, d'accord? Ailleurs, on va trouver des textes prophétiques qui nous annoncent quelque chose qui va venir. Ce sont des décrets de Dieu. Dieu annonce que Christ va venir et qu'il va souffrir. Alors, par exemple, c'est tellement un absolu que lorsqu'on arrive dans le jardin de Gethsémané puis on assiste au combat spirituel que Jésus vit lui-même, lorsqu'il dit « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne », tu es en train de te dire « Y avait-tu même une possibilité que ça se produise pas? » C'est une prophétie qui est derrière ça. Il y a un décret divin. Dieu a annoncé que la chose va se faire. Elle allait se faire. Cette semaine, j'avais une discussion existentielle avec quelqu'un. Est-ce que Pilate avait le choix de condamner Jésus, oui ou non? Est-ce que Judas avait le choix, oui ou non? C'est parce qu'il y a des décrets derrière ça, des décrets divins. Voyez-vous, ce sont des absolus qui me sont présentés. Quand j'arrive dans les proverbes, je sais que je rouvre des questions dans votre tête, on en chassera une autre fois. Quand j'arrive dans le livre des proverbes, voici comment on va le résumer au bas de la page 2. Il s'agit de principes généraux tirés d'observations qui peuvent être faites soit de la création, j'ajouterai à cela à partir de la sagesse de Dieu, mais donc des principes généraux tirés des observations qui peuvent être faites de la création par ceux qui craignent Dieu. Pour bien comprendre les proverbes, je dois comprendre qu'il s'agit de principes de sagesse. Par exemple, allez avec moi dans le proverbe 1, ça va être plus simple, je vais vous le montrer. Verset 18, proverbe 1, 18 et 19. Il parle du méchant, de celui qui a décidé de marcher sans Dieu, et puis il met en garde son fils, de ses enfants, de suivre la voie du méchant. Il dit, ils sont toujours en train de préparer le mal, tout ça, et voici la fin de leur vie, verset 18. « Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une prophétie absolue? Est-ce qu'on est dans un texte qui déclare « Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va être avide de gain, sa vie, la fin de sa vie va être misérable et ses projets vont se retourner contre lui. » Non? En fait, oui, si je le prends dans une perspective éternelle. D'accord? Mais si je le prends sur la terre, on voit des gens, et écoutez, on lit les journaux de ce temps-ci, là. Puis tu ne peux pas faire autrement que de te dire, pour tous les gens qui fraudent, qui se font attraper, il y en a combien qui ne se font pas pincer? Tu ne peux pas faire autrement. C'est pour ça qu'il y a un cynisme croissant dans la population. D'accord? Tant que tu as l'impression qu'il y a juste deux, trois criminels qui se prennent avec des gros tatous puis des grosses un paquet d'affaires puis sur des motos avec des frocs de cuir, ben là, tu te dis, OK, c'est eux autres. Là, c'est eux autres les méchants, on les connaît les méchants. Mais là, tu découvres que les méchants, ils ont des cravates, des vestons, ils travaillent dans des bureaux puis ils donnent à des fondations caritatives, tu sais. Puis là, tu dis, ouais, OK, même ils sont ministrables, les méchants. OK? Fait que là, t'en finis plus, là. Puis là, il y a une espèce de cynisme parce que tu te dis, OK, c'est juste la pointe de l'iceberg, cette affaire-là. Là. C'est tout, là. Et donc, tu te dis, OK, ceux-là, on les a pincés, la fin de leur vie va peut-être être moins le fun. Tu sais, ils ont eu des maisons à Brossard, puis ils vont peut-être finir en prison. OK, ça marche ici. Mais pour celui-là, il y en a combien qui ne seront pas pincés? Qui ne seront pas pincés, d'accord? Et donc, ce n'est pas une promesse que Dieu fait ici. On est dans les livres de sagesse. Ce sont des principes généraux qui me sont donnés. Donc, ce sont des choses qui sont généralement vraies. Les choses vont généralement suivre cette course-là. Les méchants vont généralement être attrapés et finir misérables. Si je le place dans une perspective biblique globale, je pourrais le mettre à l'absolu et dire, la fin de toute façon du méchant, c'est quoi? C'est la perdition. D'accord? On pense au psaume 73, c'est tout ça? La fin du méchant, c'est de comparaître devant Dieu. Alors, c'est vrai, à la fin. Mais là, les proverbes, en général, il est en train de parler du vivant. Il est en train de parler pendant la vie des gens. Donc, ce sont des principes généraux. Et une erreur qu'on fait assez commune, c'est de les prendre comme des promesses. Et de s'attacher à ça comme si c'était des promesses. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des principes que Dieu nous donne qui se réalisent généralement comme cela. Et c'est comme ça que je vais fonctionner avec. Mais il se peut que j'instruise mon enfant, selon le Seigneur, puis que je sois le plus irréprochable possible, et que mon enfant ne se tourne jamais vers Christ. C'est possible, ça. Dieu ne m'a pas garanti que si je suivais une recette magique, automatiquement, ça allait produire des petits élus. Voyez-vous? Le principe général demeure, par contre. Généralement, les parents vous diront, si tu enseignes des bons principes, ça se peut qu'ils prennent des détours en vieillissant, puis qu'ils reviennent à la maison, dans le sens qu'ils reviennent au principe que tu lui as enseigné en vieillissant. Et généralement, c'est ça qui se passe, c'est vrai. Encore là, ils ne deviennent pas tous chrétiens. D'accord? Et pourtant, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est devenir chrétien. D'accord? Donc, ils vont pas tous devenir chrétiens. Mais donc, on voit des gens qui ont été élevés dans des foyers chrétiens, puis qui ont des années de rébellion, même non seulement contre Dieu, mais contre l'autorité des parents. Puis ils ont une partie de leur vie d'errance où ils tombent dans un certain nombre de péchés. Puis après ça, ils vont se ranger parce qu'ils reviennent aux principes qu'on leur a enseignés. C'est pas certain qu'ils vont devenir chrétiens pour autant. D'accord? Donc, c'est un principe général. C'est quelque chose qui est généralement vrai. On est dans les principes de sagesse. Avez-vous des questions ou des commentaires sur ça? Oui, Gérard.
Il y avait à l'intérieur de lui une connaissance de l'Éternel.
Oui.
Et est-ce que ça se peut que, quand les descendants qui, pour la vie de tous les jours, pratiquent tous les jours, ils puissent avoir aussi la notion de l'éternité dans ce qu'il amène et qu'il y ait une promesse à travers tout ça qui finit dans la vie?
J'aimerais ça te dire oui, mais non, ça ne rentre pas avec le genre littéraire. Il faut comprendre que la perspective de l'éternité, l'accent sur notre éternité se développe beaucoup dans le Nouveau Testament. D'accord? C'est là dans l'Ancien Testament, ce n'est pas absent, mais ça se développe beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Et ça serait de ne pas respecter le genre, puis d'essayer de voir une pensée qui ne serait pas là. C'est une bonne question, là, ça aurait pu être le cas. Mais je suis en train de forcer le genre littéraire, si je suis en train de faire ça. Je suis en train d'essayer de lire certaines choses dans la pensée de Salomon qui n'était pas là. Par contre, si vous allez dans l'Ecclésiaste, si c'est Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste, là, il va donner une portée éternelle à ses proverbes. D'accord? Fait que l'Ecclésiaste, c'est pratiquement un gros proverbe. D'accord? C'est comme une espèce de bilan de vie, si on peut dire. Et il y a une perspective éternelle qui est là, parce qu'il dit, jeune homme, n'oublie pas la fin de ta vie, hein. Tu vas comparaître devant Dieu. Et donc là, il y a une perspective éternelle. Mais de dire qu'à l'intérieur des sentences, qui sont des observations du quotidien, avec une sagesse divine, de dire qu'il y a nécessairement une promesse qui est là, là, ça serait de forcer le genre lui-même. Ce sont des textes de sagesse à prendre comme de la sagesse. Et en fait, je vous dirais, parce que je l'ai observé, certaines personnes qui vont prendre ces textes-là pour des promesses vont perdre la sagesse de Dieu. Je m'explique. Si je prends un texte comme ça, puis je dis par exemple, instruis un enfant selon la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il se regraint, il ne s'en détournera pas. Si je prends ça comme une promesse, ça se peut que ça change ma vie de prière, ça se peut que ça affecte ma vie de prière, ça se peut même que je développe de l'amertume dans ma vie. Parce que si Dieu accomplit pas ce que moi j'ai identifié comme une promesse, mais qui est en fait un principe de sagesse, ça se peut que je devienne amer contre l'Éternel. Que je juge les autres aussi, exactement. Oui, tout à fait. Qui serait déjà une application beaucoup plus concrète. Hein? Si tes enfants sont tout croches, on le sait bien, c'est pourquoi. Dieu t'avait donné une promesse, tu ne l'as pas faite. D'accord? C'est pour ça qu'il ne marche pas avec le Seigneur. Ouch. Oui. André. Oui. Oui. C'est vrai. Merci, André. Salomon est un bel exemple que ce n'est pas nécessairement une promesse. Merci. Oui, qui revenait à l'Éternel. Ouais, c'est un cordonnier mal chaussé. Hein? Oui, et la première erreur qu'il a faite, c'est d'avoir de nombreuses femmes avec des alliances étrangères avec d'autres dieux, puis après ça, vouloir honorer ces femmes-là en adoptant leurs dieux. Oui. Lequel, je m'excuse? Oui. Absolument, absolument. Alors la question c'est, oui, c'est un principe général, est-ce que nous, on ne devrait pas se projeter dans ce texte-là pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie à nous, pour notre vie spirituelle, pour notre éternité, définitivement. Mais je suis rendu dans une autre étape à ce moment-là, ce qui est celle de l'application. D'accord? Quand je veux bien comprendre la Bible, je dois comprendre la Bible pour ce qu'elle dit. Je vais ensuite prier sur ce texte-là. Je prie premièrement pour que Dieu me donne le discernement de respecter ce que la Bible dit, pour ce qu'elle dit. Une fois que j'ai bien identifié ce qu'elle est en train de dire ici, après je peux demander à l'Esprit-Saint de venir l'appliquer dans ma vie, dans mon cœur, de manière personnelle et concrète dans ma vie. Mais ça va se faire à la lumière d'une bonne interprétation. Et donc après ça, je vais le prendre, je vais me l'approprier, je vais l'appliquer dans ma vie. Alors ça, ce principe-là devient très concret pour moi. Et personnellement, j'étais en train de lire ces proverbes-là cette semaine, et c'était des situations claires qui venaient dans mon esprit, où l'Esprit de Dieu est en train de me dire, « Regarde, Yannick, voici comment parfois tu suis la voie du méchant. Tu vas en compagnie des pécheurs, Yannick. Comment est-ce que tu fais ça? » Bien franchement, cette semaine, j'étais en train de penser à parfois ce que j'écoute à la télévision et qui peut saisir mon cœur. Est-ce que je ne suis pas en train de marcher dans leur sentier? Parce que dans le fond, c'est comme si j'allais au bar avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, puis j'ai dit, bourre-moi la tête de toutes tes histoires. Parle-moi de la vie comme toi, tu la vois. T'sais? Alors, oh, là, j'étais, vois-tu, le Saint-Esprit est en train d'appliquer le principe à mon cœur pour m'amener, moi, à réfléchir, à avoir de la sagesse. Ça va? Alors oui, on doit aller vers l'appropriation. Ça, c'est très clair. Donc, ils expriment des vérités générales. C'est pas pour vous décourager hein, si je dis ça. Au contraire, si je comprends bien ce que le texte est en train de dire, ça veut dire « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Applique-toi, tire la sagesse de ça. Mets ton énergie là-dedans. Prends-le pas comme une promesse dans ce cas-là, puis croiser les doigts. Non, non, applique-toi, fais-le. Fais-le et Dieu bénira. » Oui, puis il y en a plein de promesses. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de promesses dans les Écritures. Il y en a plein de promesses dans les Écritures. Je suis en train de dire que généralement, les proverbes n'en sont pas. Ce ne sont pas des déclarations absolues. Ce sont des principes de sagesse. Par exemple, une déclaration qui va être au sens absolu, Proverbe 16:1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Lorsque nous avons des projets sur notre cœur, nous avons un pouvoir, c'est vrai, de décision, mais celui-ci est limité par les décrets divins. Alors, même si moi, je projette de faire telle chose, si Dieu a décidé que ça ne se passerait pas, ça ne se passera pas. D'accord? Pour l'illustrer, souvent je dis, ben, si tu es dans un restaurant, puis il y a un criminel qui rentre avec une arme à feu, si Dieu a décidé qu'il ne se rendait pas à toi, il ne se rendra pas à toi. Il va faire une crise de cœur sur le pas de la porte. La moitié du mur va s'effondrer sur lui. S'il se rend à toi, c'est parce que Dieu l'a permis. D'accord? Alors, c'est lui qui a les mauvaises intentions, ce sont ses choix au criminel. Mais les décrets divins vont intervenir. Et donc, dans ce proverbe-là, j'ai une vérité absolue. Les projets que forme le cœur de l'homme, le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Quelques règles pour interpréter les proverbes. Je vais un petit peu plus loin. Quelques règles pour interpréter les proverbes. Mais comme on l'a dit la semaine dernière, dans la poésie hébraïque, il y a beaucoup de parallélisme. Les proverbes sont remplis de parallélisme. D'accord? Ou dans la première phrase, je vais avoir une déclaration, puis la deuxième phrase, celle qui suit après, pas nécessairement le verset après, là. Dans la même phrase, la deuxième partie de la phrase, je devrais dire, va dire soit le contraire exactement pour affirmer la même vérité, va le prendre d'un autre bout, soit va nuancer un peu, soit va ajouter un petit peu, soit simplement va répéter exactement la même chose dans d'autres mots, d'accord? Alors, on a encore beaucoup de parallélisme. On a un exemple ici, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable, d'accord? C'est un parallélisme antithétique, c'est-à-dire qu'il dit une chose, puis il dit, dans le fond, l'opposé demeure vrai aussi, là, tu sais. Donc, j'essaie de les voir lorsque je lis les proverbes. Est-ce que je suis en face d'un parallélisme? Ça m'aide à comprendre le texte. Identifier les figures de style. Alors, parfois, on va avoir des métaphores qui vont être utilisées. Ça va être des images qui sont pas là, qui ne sont pas à prendre au sens littéral. Par exemple, encore une fois, le proverbe 11:1, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Dieu a rien contre les balances, c'est celui qui a faussé la balance le problème. D'accord? Et donc, on est dans une image. On doit discerner qui est en train de parler de l'auteur qui est derrière ça. Et donc, on va avoir des comparaisons, on va avoir des métaphores, et j'essaie de les voir parce que je suis dans un langage poétique. Je ne suis pas dans un langage littéral. On est dans des images. un truc que je trouve absolument excellent, c'est d'essayer de résumer le proverbe dans une phrase, dans vos mots à vous. Pour voir si vous saisissez la sagesse qu'il y a là, essayez de résumer ce proverbe-là en une phrase dans vos mots à vous. D'accord? Deuxième élément, cherchez à voir si ce que vous comprenez se reflète ailleurs dans les Écritures. Ce que vous avez compris dans ce texte-là, est-ce que ça va se refléter ailleurs dans les Écritures? D'accord? Où est-ce qu'on va le voir? Par exemple, si je disais « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Moi, je comprends dans ce texte-là que Dieu est en train de me donner une promesse non négociable. Je vais prendre un café avec André, puis André, il me dit « Ouais, c'est drôle, par exemple, parce qu'un des gars qui a écrit plus de proverbes, c'était Salomon, puis je pense que David, il a quand même essayé de l'instruire dans la crainte de l'Éternel, tu sais. » Fait que ça n'a pas l'air de marcher à tout coup, cette affaire-là. Fait que je m'en vais ailleurs dans les Écritures pour voir si ma compréhension du proverbe tient la route. D'accord? C'est un principe général dans l'interprétation de la Bible. Quand vous découvrez une perle qu'aucun théologien en 2000 ans d'histoire a découvert dans la Bible, essayez de voir ce que la Bible dit ailleurs sur cette perle-là que vous avez découverte. D'accord? Parce que c'est la révélation de Dieu et elle se tient. Alors c'est vrai, des fois j'arrive dans des passages, l'interprétation en est difficile, et là je dis, ça pourrait vouloir dire ça. Est-ce que ça concorde avec ce que l'ensemble des Écritures disent? Non. Oh, OK. Dieu ne se contredit pas. Je me retourne dans le texte. Je m'en vais étudier mon texte pour le comprendre. D'accord? Alors, je vais faire la même chose avec les proverbes. J'arrive devant un proverbe, je résume ça en une phrase dans mes mots à moi, puis je dis, est-ce que ça concorde avec ce que les Écritures enseignent, oui ou non? Et donc, je vais voir si le sens que j'en ai compris est bon. Il y a des livres dans le Nouveau Testament qui ressemblent au livre des proverbes. Je pense à l'Épître de Jacques, entre autres. Plusieurs des paroles de Jésus aussi. Et puis, évidemment, ce que Isaac mentionnait tout à l'heure, chercher à appliquer ce proverbe-là à ma vie. Les proverbes sont géniaux parce qu'on peut se rappeler des principes très clairement dans notre esprit. C'est la force des proverbes. Je dois chercher après ça à l'appliquer à ma vie. Et je vais demander à l'Esprit-Saint de venir l'appliquer à ma vie, de venir illuminer les yeux de mon cœur pour que ce texte-là devienne vivant dans ma vie, que je vois où est-ce qu'il s'applique chez moi. Et ça, c'est l'œuvre que l'Esprit fait en nous. Alors ça, ce sont des principes généraux pour pouvoir interpréter les proverbes. La sagesse qui vient de Dieu. On va regarder quelques textes des proverbes ensemble, d'accord? Le commencement de la sagesse, on l'a mentionné, je ne vais pas m'étirer sur ça. Le commencement de la sagesse, on est dans Proverbe 1. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Proverbe 1. Je ne vous lirai pas les versets 1 à 7, ce serait un peu trop long. Mais au verset 7, on lit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou le commencement de la connaissance de la sagesse. » Alors, la sagesse commence vraiment par une personne qui est la personne de Dieu. Jean Calvin disait, l'être humain ne peut pas se comprendre tant qu'il ne regarde pas à Dieu. L'erreur que l'homme fait, c'est qu'il regarde à lui pour pouvoir se comprendre. Calvin disait, non, commence par regarder à Dieu, après tu vas pouvoir comprendre qui tu es. D'accord? Et donc, c'est cette même idée-là. La sagesse ne commence pas par moi, replié sur moi-même. La sagesse commence en regardant à Dieu, en mesurant qui est Dieu et en ayant de la crainte, du respect pour mon Créateur. Cette sagesse-là nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Proverbe 2, versets 1 à 9. C'est de l'Éternel que vient la sagesse. C'est lui qui la donne, elle ne vient pas de nous. Déjà, ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande de reconnaître justement que Dieu est Dieu et que je ne suis pas Dieu, que je ne suis pas l'autorité seule sur ma vie. C'est une des choses qui est difficile à apporter à vos enfants lorsque vos enfants sont rebelles, admettons. Quand ils sont rebelles contre l'Éternel, ils sont leur propre autorité. Et donc, ils pensent que ce qu'ils déclarent, c'est sage, ça fait du sens. Non, pas nécessairement. La sagesse, elle vient de Dieu, elle vient pas de toi, mon ami, elle vient pas de moi non plus. Les récompenses de la sagesse, chapitre 3, 1 à 10, ce que Dieu va te donner à travers ça, encore une fois, sur la base de principes généraux. Proverbe 3, 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Encore une fois, on voit bien que ce n'est pas une promesse, d'accord? Il y a des gens qui craignent l'Éternel qui meurent à 12 ans, qui meurent à 15 ans, qui meurent à tout âge. Mais généralement, effectivement, lorsque tu marches selon les voies de Dieu, dans la crainte de Dieu, ta vie va être sous la grâce de Dieu et sous des principes de sagesse qui viennent de Dieu. D'accord? Mais il y a des gens qui... Je parlais avec quelqu'un dernièrement, problème d'alcoolisme sévère, 8 cures de désintox, examen de santé, top shape. Je parlais avec mon épouse, puis j'ai dit, ça se peut pas, hein, travailler aussi fort à détruire ton corps et ta santé, puis avoir une santé de fer comme ça, c'est impossible. C'est incroyable. D'accord? Alors, donc, il y a des gens qui vont contredire, si on pourrait dire ça, parce que ce sont des principes généraux. Mais il y a des récompenses à la sagesse. Et même en pensant à cette personne-là, je suis en train de penser aux récompenses qu'il y a dans ma vie de marcher dans la crainte de l'Éternel. Cette paix, cette joie, cette espérance, ce repos, ce réconfort, cette famille que j'ai, cette famille de Dieu que j'ai, de l'ordre dans ma vie qui me permet de faire le bien quand je veux faire le bien, un guide lorsque je suis en train d'errer, toutes sortes de bénédictions. Les récompenses de la sagesse. Maintenant, on va juste terminer en plaçant le livre des Proverbes dans notre contexte à nous. Le livre des Proverbes se passe dans l'Ancien Testament. On a déjà dit que la Bible est une révélation progressive. On part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et Dieu se révèle de plus en plus. Et on a un personnage qui apparaît comme jamais auparavant dans l'Ancien Testament lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et je vais ajouter quelque chose aux notes. Si vous voulez, tourner avec moi dans Jean. Parce que Jean introduit un concept intéressant. Tout à l'heure, Alexandre va en parler. Je ne pense pas qu'il va parler de la notion de logos. Pour nous qui vivons à la lumière du Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu, bien, tout commence là pour nous, même au niveau de la crainte de l'Éternel. Et lorsque Jean commence son évangile, il dit, Jean 1:1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Le terme grec qui est là, c'est le logos, d'accord? C'est un terme philosophique qui était utilisé à cette époque-là par d'autres philosophes. Et donc, Jean est en train de dire, ce terme-là, le logos, c'est la parole, mais ça veut dire le principe. Ça veut dire, c'est ça, la règle, le principe, la parole. Et donc, plusieurs philosophes croyaient qu'il y avait un principe universel qui ordonnait toute chose, qui soutenait toute chose. Et quand Jean vient ici, inspiré par l'Esprit de Dieu, il nous dit, voici le logos. Je vais vous parler de ce logos, de ce principe créateur-là, qui est derrière toute chose. C'est une personne, le logos, c'est Jésus-Christ. Ce principe-là, c'est la sagesse même. D'accord? Alors, Jean est en train d'emprunter un concept contemporain à l'époque pour nous dire, celui que vous cherchez, là, ce logos, ce principe universel-là qui soutient toute chose, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et là, après, on s'en retourne dans l'Ancien Testament, puis on voit justement Christ apparaître à différents endroits dans l'Ancien Testament, et on comprend que Dieu a créé à travers lui, par Christ. Lorsque Dieu a dit, c'est Christ qui opère et qui crée, d'accord, à ce moment-là. Mais donc, ce que ça veut dire pour nous, ça veut dire qu'un passage comme la crainte de l'Éternel, pour nous, ça commence avec l'amour de Jésus-Christ. Reconnaître qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Ça commence avec une personne. Dans Colossiens 2, 2 et 3, on lit, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, au bas de la page 5, là, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Alors, quand je suis dans Proverbe 1 et que je lis ça, l'auteur des Proverbes ne connaît pas Christ comme nous le connaissons. Moi, je lis les Proverbes à la lumière de cette vérité-là. La personne en qui se trouve toute la sagesse et la connaissance, c'est en Jésus-Christ. Et donc, lorsque je veux marcher dans la crainte de l'Éternel, je veux marcher dans la connaissance de Christ. D'accord? En Christ, nous dit l'apôtre, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. D'une manière inégalée, Jésus-Christ est venu nous révéler la sagesse de Dieu et c'est en lui que nous pouvons l'obtenir. Par sa vie sur la terre, Jésus, en plus de nous donner le moyen de devenir sages, nous a laissé un exemple. Vous lisez le livre des Proverbes, vous regardez la vie de Jésus, vous avez le livre des Proverbes vécus. Est-ce que ça a de l'allure ce que je viens de dire? On lit les Proverbes, on lit la sagesse, on regarde la vie de Jésus, puis tu dis, voilà quelqu'un qui vit les Proverbes quotidiennement, à chaque instant, parfaitement. Alors, si je veux avoir la sagesse, je vais premièrement aller vers la personne de Christ, et je vais regarder comment est-ce que lui a vécu, comment est-ce qu'il a marché, Et je vais lire le livre des Proverbes à la lumière de cette sagesse-là. Et lorsque je me tourne vers le Nouveau Testament, bien tout à l'heure j'ai mentionné l'épître de Jacques. Notre conception de la vie chrétienne, notre manière de voir la vie chrétienne ne doit pas nous amener à être tellement spirituel que ça ne se traduit pas dans le quotidien. Et c'est ça la beauté du livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, on voit cette idée que la foi doit avoir une portée quotidienne. D'accord? Lorsque Jésus a enseigné sur le bon samaritain, Jacques nous dit « Si tu ne le fais pas, essaie pas de me faire croire que tu es chrétien. » Tu n'es pas un bon samaritain au quotidien. Pose-toi des questions sur ton salut, mon homme. Wow, attends un peu, on est sauvé par la foi. Oui, on est sauvé par la foi. Cette foi-là produit des œuvres. Si elles ne sont pas là, pose-toi des questions à savoir si cette foi-là est présente. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on applique le livre des Proverbes dans notre vie? On recherche la sagesse de tout notre cœur. Premièrement, c'est une attitude. On applique notre cœur à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ. On veut démontrer notre foi par des actions qui manifestent la sagesse venant de Dieu. Et enfin, on instruit nos enfants à rechercher cette sagesse-là. Et le livre des Proverbes, moi je vous dirais à tout âge, là, vous ne lisez pas un chapitre avec un enfant de 3 ans. Vous choisissez votre sentence avec un enfant de 3, 4, 5, 6 ans. Et lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, là, nous autres on est dans ça, la même chose, vous choisissez une sentence et vous allez réfléchir avec eux, juste sur ce verset-là, ces deux versets-là, pour pouvoir leur expliquer, les aider à s'ouvrir à cette sagesse qu'il y a là. C'est bon? La semaine prochaine, on va... Oui, oui, Annie. Quand je suis l'histoire de cette requête-là, là, comment elle évolue, puis... Oui, oui. Mais en fait, c'est ça, quand je lis les Proverbes, moi, je pense à mes enfants, puis ça m'aide à prier pour mes enfants. D'accord? Fait que oui, ça va inspirer nos prières. La semaine prochaine, on va être dans le livre d'Ecclésiaste. On va terminer dans un mot de prière. Alors, vous avez les chapitres à lire. J'ai mentionné au début... mon petit sondage, mon petit formulaire d'évaluation, juste le remplir, prenez quelques minutes, s'il vous plaît, puis venez le déposer ici. Pardon, moi, ça va m'être utile, d'accord? On va prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est vraie, ta parole est sage parce qu'elle vient de toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la sagesse même. Seigneur, merci de t'être révélé à nous, de nous avoir amené à te connaître et à t'aimer. Instruis-nous, Seigneur, afin que nous gardions notre cœur pour toi, pour demeurer en toi et te laisser nous transformer pour que nous grandissions jour après jour dans cette sagesse. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci. Non, ils l'ont pas ôté.